Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
Aujourd'hui, bien sûr, on a une discussion intéressante à parler avec Cindy River de Malte-Brou. Elle vient d'annoncer qu'elle veut placer le flambeau de la compagnie après 20 ans. Puis si vous ne savez pas c'est quoi Malte-Brou, c'est une très belle compagnie. Ils font du beau malt québécois. Ils font vraiment beau ce qu'ils font, même. Vraiment, c'est comme tous les brasseurs avec qui j'ai parlé, c'est sympathique comme gang qui font ça depuis des années. Ils travaillent très fort, ils produisent du malt de qualité. Pas mal, beaucoup de bières québécoises que vous goûtez, il y a ça là-dedans. Puis, bien sûr, quand c'était annoncé il y a quelques jours de ça, on avait beaucoup de questions à se poser là-dessus, puis je voulais parler avec elle. On se connaît depuis au moins 6 ans, 7 ans. Là. Puis, bien sûr, j'ai eu beaucoup de feedback pour savoir pourquoi elle me vend ça, comment ça peut coûter. Qu'est-ce qu'il y a avant? Pourquoi avant? Mais avant de parler de tout ça, je voulais parler avec Cindy, de parler du début de la compagnie. Puis après ça, on ira tranquillement vers pourquoi elle est avant tout ça. Mais avant ça, je voulais saluer Cindy. Comment ça va?
Allô, Leonardo. Ça va super bien. Merci pour ton invitation.
Mais merci à toi d'avoir été ici. Je sais que, comme tu dis, quand tu as lancé ça, c'est une bombe. C'est une bombe. Ça a extrêmement explosé. J'ai eu beaucoup de feedback là-dessus. Mais avant de parler de cette bombe-là que tu as envoyée, puis c'est pas vraiment une bombe, c'est comme on aime ça. On aime ça
savoir pour vous autres, ça vous paraît une bombe, mais la réflexion date de quelques années quand même. Là, on a cheminé dans ça.
Oui, puis tu connaissais Anton, ça parlait souvent, toi et moi, puis je sais que tu es quelqu'un qui pense ces affaires-là, beaucoup de réflexion tout le temps. Puis avant qu'on parle de pourquoi tu chutes la relève, pourquoi tu veux vendre, tout ça, je me parlais un petit peu de d'où viennent les origines de ta compagnie, parler un peu de toi, tout ça. Let's go. Parle-moi un petit peu du début de tout ça, puis après ça, on va parler de ce qui se passe.
Hey, super. Tu as dit, en effet, que ça faisait 20 ans. Bien, en fait, c'est ça. Ça fait 21 ans qu'on a eu l'idée de démarrer Malte-Brou. Et puis, ça fait 15 ans que nos produits sont sur le marché. Il y a quand même eu quelques années entre l'idée, puis l'implantation, la création et tout ça. On est installé au Bas-Saint-Laurent, sur les terres familiales de Danny, qui est mon partenaire dans la vie et mon partenaire en affaires. Donc, on a repris la terre familiale. Je pense qu'on est d'abord et avant tout tombé en amour avec le coin. T'sais, ceux qui ne connaissent pas Malte-Brou, allez sur le site web, vous allez être accueillis avec une vidéo qui démontre l'environnement de où qu'on est. Et puis, on a juste... Danny a grandi ici, là, mais il est parti pour ses études. Puis, on s'est rencontrés dans la région de Montréal et tout ça. On a commencé notre vie là. Puis, il m'a convaincue de se réinstaller ici à Témiscouata sur le lac. Puis, c'est ça. On a d'abord choisi l'environnement pour élever notre famille et tout ça. Puis, on avait le goût de se partir en affaires ensemble. Fait qu'on trouvait que c'était un bel endroit pour faire ça, puis on s'est questionné sur ce qu'on avait le goût de faire ensemble. On a des compétences différentes qui se complètent. On avait une belle paire, une belle opportunité. Ça fait qu'on a brainstormé. C'est parti de là. Un brainstorm de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et l'orge, elle poussait bien ici sur les terres. Ça fait qu'évidemment, on a pensé, comme tout le monde, à faire de la bière. On se dit, on va cultiver l'orge, on va la malter, on va la brasser, on va faire un site touristique, en tout cas, la totale. Mais évidemment, quand on réfléchit à tout ça, puis on a fait notre étude de marché, on a vu à quel point c'est tous des métiers différents. C'est vraiment un métier brassé, c'est un métier malté. Il y a l'agriculture par-dessus ça. Ça fait qu'on a décidé de cultiver les terres et malter. On s'en tenait à ça. À l'époque, il n'y en avait pas de micro-malterie au Québec. Là, on est arrivé sur le marché à peu près en même temps que la malterie Frontenac. Là, on fait partie de ceux qui ont ouvert la possibilité de faire du micro-maltage au Québec. Et je dois dire qu'à l'époque, très peu de monde croyait que c'était possible. Fait que c'est ça. Puis de fil en aiguille, puis il y en a qui pensent qu'on fait encore ça, là, mais au début, on cultivait notre orge sur nos terres. Évidemment, comme tout le monde, il fallait qu'elle se classe brassicole pour qu'on puisse la malter. Donc, on respectait ça aussi. Mais avec le temps, on a aussi délaissé le côté agriculture. Nos terres actuellement sont louées à un agriculteur, puis on se concentre depuis... peut-être ça, 6-7 ans uniquement sur le maltage. Parce que c'est une grosse job en soi.
Oui, parce que moi, j'ai vu la job. Je suis allé un peu voyager un peu dans l'Est, au Canada anglais. Puis oui, c'est de la job faire ça. La phase que vous êtes vraiment un des premiers quand on s'est lancé ça, je rappelle au début, tu sais, on se bataillait tout le temps le côté de trouver des produits québécois, que ce soit Loublon, le Malt, tout ça. Vous avez été les premiers à mettre le pied, puis faire le drapeau, puis dire, écoute, on vous en fournit, tout ça. C'est sûr que le marché a changé beaucoup depuis 3 ans, 4 ans, comme on a vu ça, c'est la pandémie et tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, à vous autres, ça n'a pas les coûts, la distribution, puis les affaires normales qu'on voit ici, mais qu'est-ce qui a changé depuis le début?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben, tu sais, si on part du début, je veux dire, tu sais, je m'amuse à dire qu'on était très naïfs au début, là. Il y avait 32 microbrasseries à l'époque, là, au Québec, là. Comment qu'on pouvait penser qu'il y avait un marché intéressant? Mais sans cette naïveté-là, on n'aurait pas démarré. Ça fait qu'évidemment, ça, tout le monde le sait, il y a eu une explosion des microbrasseries. Mais si on revient dans les 3 ou 4 dernières années, ce que je trouve qui a changé, oui, le marché actuellement est plus difficile pour tout le monde. Mais ce qui est beau, c'est vraiment la cohésion puis comment le secteur d'activité au niveau des brasseries est en train de se structurer. T'sais, depuis 3 ou 4 ans, je pense, la filière microbrassicole du Québec qui a été mise sur place. Tout le monde travaille ensemble. Il y a des belles choses qui se font. Ça fait que, t'sais, il y a ce côté-là, moi, qui me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour le secteur dans l'avenir. Il y a une couple d'années difficiles à passer. Pour tout le monde, je pense, mais je ne pense pas que le secteur soit en danger là, comme tel.
La fin, c'est ça que. On va parler après de ce que tu vends, tout ça, mais tu sais, moi, quand j'ai eu le courriel, le message que tu allais faire ça, moi, ce qui m'inquiétait tout le temps, c'est l'appel d'expertise. C'est l'appel d'expertise que vous avez. Tu sais, il y a la fin, on vient de parler il n'y a pas longtemps avec Soloucan, qui vient de faire faillite, Soloucan. Puis on parle aussi le côté de la force d'avoir du monde d'ici qui travaille avec des produits d'ici, des gens d'ici. Tu sais. Même si tu fais des produits d'ailleurs, ça ne marche pas, mais du monde ici, il y a l'expertise qui est quand même. Parce que si ça, tu veux vendre, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu veux travailler d'autres choses. C'est sûr que moi, j'ai tout le temps l'inquiétude, c'est l'expertise qui se perd. Est-ce que c'est pas une inquiétude qu'on devrait avoir avec ça? Parce que la relève peut être une relève, pas uniquement québécoise, ça peut être une relève d'ailleurs. Tu sais.
Ouais.
C'est quoi l'expertise qu'on pourrait appeler ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui t'appelle pour ton expertise, ton savoir et tes connaissances. Hein.
Notre désir vraiment profond là, chez Malbrou, c'est que ça se continue au Québec. C'est clair, là. Tu sais, je l'ai dit dans la nouvelle que j'ai partagée, l'idéal, ce serait que quelqu'un reprenne la relève ici. Écoute, tout le monde veut ça, que la malterie continue ici à Témiscouata-sur-le-Lac. Mais tu sais, si on regarde plus large le marché, nous, avec la quantité qu'on fait, notre marché, c'est un marché qui est provincial. On vend à travers le Québec. Donc, tu sais, on aimerait ça que justement, on est les seuls à faire du malt de spécialité au niveau des malts caramel. On aimerait ça que ça reste au Québec, continuer de pouvoir desservir la clientèle ici avec nos produits. Puis, tu sais, dans notre réflexion, ça va vraiment dépendre de qui a le goût de reprendre ces équipements-là, parce qu'il y en a d'autres qui ont cette expertise-là, mais nous, on va accompagner les gens, c'est sûr. Il va y avoir un partage d'expertise, là. Ça ne sera pas juste, bon, voici les équipements, puis débrouille-toi. Il va y avoir un partage d'expertise, c'est sûr, un accompagnement. Puis, ce qu'il y a de beau aussi, c'est que de l'expertise, il y en a beaucoup plus aujourd'hui en 2023 qu'en 2008. En 2008, là, on a vraiment appris par essai-erreur. On est allé un peu en Europe pour aller chercher des connaissances, mais il reste qu'on a vraiment appris par nous-mêmes. Tandis qu'aujourd'hui, ben, annuellement, il y a un congrès sur le micromaltage aux États-Unis. Il y a des conférences exceptionnelles, du partage de connaissances incroyables. Il y a de la recherche qui se fait. Il y a des cours qui se donnent aussi au Manitoba. Bref, c'est de l'expertise. Puis apprendre à malter, ça se fait. Mais c'est beaucoup aussi d'apprentissage directement sur le terrain. Il faut toujours se rappeler que le grain, c'est une matière vivante et il n'y a pas un lot de malt qui répond de la même façon. C'est qu'il y a tout ce savoir-faire-là aussi qui doit s'apprendre avec le temps pour arriver à faire un bon malt de qualité.
Est-ce qu'un jour un livre ou quelque chose s'en vient avec toute ton expertise de l'enseignement universitaire ou cégep? Je ne sais pas si tu verrais là-dedans faire ça. C'est quand même. Moi, je ne connais pas beaucoup les affaires très techniques quand je parle de doublon, de grain, tout ça, mais je sais que le monde t'aime beaucoup à cause de ta force technique que tu as. Est-ce qu'à long terme, tu pourrais penser à des cours, des affaires en ligne, du monde qui paye
Ben,
pour
Il me manque beaucoup d'expertise au niveau scientifique, là. Il y a beaucoup de biologie, microbiologie derrière le malt et tout ça. Tu sais, moi, j'ai plus une expertise qui est terrain. Il y a des écoles maintenant au Québec, c'est le fun. Ça fait que, tu sais, nous autres, on est ouvert à partager notre expertise, mais il faut se rappeler que c'est une expertise qui est plus terrain. Ça fait que, bref, c'est drôle ton idée. J'ai jamais pensé écrire un
J'ai
livre
passé à deux
là-dessus.
secondes au bout. À chaque fois qu'il y a de l'expertise, ça va que le monde nous contacte pour quelque chose. C'est parce que, tu sais, on a quand même mis du temps là-dedans, puis on a appris tout ça. Qu'est-ce que tu vends? Pourquoi tu vends? Pourquoi ça change? Pourquoi tu veux donner ça à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres modèles d'affaires? J'ai beaucoup de questions là-dedans, mais pourquoi la raison de partir maintenant?
Oui, ben, tu as parlé de modèle d'affaires, puis effectivement, nous, ça fait quelques années là, qu'on est en réflexion par rapport à ça. Le modèle d'affaires qu'on a ici, tu sais, nous, on n'a fait qu'une seule activité chez Malbrou, c'est du malt. Il y a beaucoup au niveau quand on transforme un produit, tu sais, je regarde au niveau du houblon ou d'autres malteries, souvent les gens, ils ont une autre activité à côté, ce qui rend, tu sais, quand on est à petite échelle, ce qui rend les activités beaucoup plus efficaces, rentables, et etc. Ça fait que nous, quand on a commencé à réfléchir à changer notre modèle d'affaires pour que ça soit plus facile, plus viable, et etc., le marché est extraordinaire. Ça fait qu'on voulait faire un peu comme Innomalt fait présentement. On a vraiment étudié à sortir la malterie de notre terre familiale, la faire grossir. Puis ça date de avant la pandémie. Donc, on a commencé à explorer de ce côté-là, commencé à regarder les chiffres, monter un plan d'affaires. Les premières démarches qu'on a faites, on nous a renvoyé à nos devoirs, ce qui est correct. Il faut faire les étapes comme il faut. Et puis, ben, entre-temps, il y a une pandémie qui est arrivée. Fait qu'on a tout mis ça
Le
le
hold.
frein, si on peut dire. Puis, la réflexion a évolué et tout. Puis souvent, quand on a une entreprise, tu sais, en fait, toi, tu as apporté ça comme si c'était une bombe que je lançais, mais ben, pour moi, c'est une suite logique dans la réflexion d'une entreprise. À un moment donné, il faut que tu penses à ta relève. Nous, on n'a pas de relève familiale. Nos enfants ne sont pas intéressés à prendre la relève, puis c'est bien correct. On n'a pas démarré cette entreprise-là pour eux autres. Fait qu'ils ont le droit de faire la vie qu'ils veulent. Nos employés, c'est la même chose. Si la malterie continue ici, ils sont prêts à rester, ça, c'est sûr. Parce qu'eux autres aussi ont développé une expertise, ne veulent pas. Mais ils ne prendraient pas la relève de l'entreprise. Donc, il fallait penser autrement. Et on a décidé justement, tu sais, la réflexion avec les années qui ont passé, on a décidé que finalement, ce n'était pas prendre l'expansion qu'on voulait. On veut passer le flambeau. Tu sais, pour prendre l'expansion, puis pour prendre ton bâton de pèlerin, puis monter ce projet-là, puis tout ça, il faut encore que tu aies cette flamme-là qui brûle en toi pour, c'est quasiment recommencer à zéro. Puis, c'est ça, je pense que la flamme était un petit peu moins là. Je pense que c'est le temps de faire le move, justement, pour pas arriver à la dernière minute, puis, tu sais, on veut pas non plus garrocher ça, puis vendre parce qu'on est tanné. On veut vraiment faire les choses comme il faut. Puis, ça explique aussi pourquoi que j'ai décidé de sortir la nouvelle publiquement, puis de tout dire ça à mes clients pour, premièrement, on continue à produire, là, il n'y a pas de
Ben
problème. La production continue. Fait que je ne voulais pas faire peur à personne. Je ne voulais pas que les gens la prennent par en dessous puis qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passait chez nous. Donc, la production continue et ben, je pense que mon réseau, c'est la meilleure place où peut-être trouver une relève puis que ça reste au Québec. Parce que, tu sais, des micro-malteries à Star, il y en a partout au Canada, il y en a aux États-Unis. On ne se le cache pas, ça pourrait arriver que finalement nos équipements se retrouvent ailleurs. Mais pour l'instant, on ne fait pas de démarche pour le ailleurs. On fait des démarches pour ici.
Est-ce que vous avez déjà commencé à penser, c'est sûr que vous êtes au Québec, ça fait pas longtemps que vous avez annoncé ça, mais est-ce que déjà vous voyez un intérêt tranquillement ici ou plus dans le côté national? Parce que moi, je verrais des compagnies, de mes contacts au Canada anglais, que c'est intéressant d'avoir un pied au Québec, mais vous avez quand même mis en place un marché intéressant. Mais comme je dis tout le temps, le monde ne comprend pas, mais avoir une expertise, puis avoir un brand qui est connu, qui est respecté dans une place comme au Québec, c'est difficile. Puis avoir un brand qui respectait dehors du Québec est difficile. Puis c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur du Québec, d'avoir un point de ici. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez commencé peut-être à, disons, la prochaine étape à penser à ça?
Bien, en toute honnêteté, on n'a pas fait aucune étape, aucune procédure ou étape à l'extérieur du Québec, pas encore. Mais c'est sûr que s'il n'y a rien qui se passe au Québec, ça va arriver, là. Ça fait que, tu sais, il y a quelques années, on a eu beaucoup. Dani a déjà installé des malteries à l'extérieur du Québec. Ça fait qu'on on en a eu beaucoup d'appels de gens qui étaient intéressés à faire du micromaltage. Je pense pas que l'intérêt n'est pas là. Puis on verra si des gens viennent cogner à notre porte parce que la nouvelle va commencer à circuler. Je tenais à ce qu'elle circule ici d'abord et avant tout.
Qu'est-ce que vous vendez? Parce que vous me dites, vous avez de l'équipement. Est-ce qu'il y a du terrain aussi? Qu'est-ce que vous vendez en arrière de tout ça?
Ah oui, c'est vraiment, on passe le flambeau complet parce qu'on aimerait ça que quelqu'un reprenne la malterie puis qu'il reste ici. Ça fait que c'est vraiment tout, là, la terre, les bâtiments, la malterie ici.
Les clients.
Oui, bien, la clientèle, ça, c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, c'est la personne qui va décider de reprendre la malterie, là, ça fait 15 ans qu'on est sur le marché. Je pense qu'on a une bonne réputation, on a des bons produits, on a une clientèle d'établis. Fait que c'est une belle opportunité. C'est vraiment une belle opportunité parce que surtout qu'il va y avoir un accompagnement aussi, il va y avoir une transition qui va se faire entre notre façon de faire et la nouvelle, entre les clients et les nouveaux propriétaires. Ça fait que c'est une belle opportunité.
Mais c'est quoi? Vous pouvez me parler un petit peu la grosseur du terrain? C'est que j'ai pas vu ça. C'est quoi la grosseur? Combien d'hectares, tout ça?
Ah oui, c'est une petite ferme, vraiment, là. C'est 30 hectares cultivables ici. Nous, c'est ça, même à l'époque où ce que on cultivait nos terres, on s'approvisionnait à l'extérieur aussi. Donc, on s'approvisionnait en orge et en blé à l'extérieur. Au Bas-Saint-Laurent, on s'approvisionnait toujours le plus près possible de nos installations. Ça fait que c'est ça, on a 30 hectares cultivables. On a à peu près l'équivalent en bois aussi, une terre à bois. Ça fait que c'est ça, mais il reste que côté agricole, c'est très petit. Pour ceux qui connaissent le domaine agricole, là, ils vont comprendre que oui, c'est une petite terre. Et puis, ben, c'est ça, il y a les bâtiments ici. On est sur le bord du magnifique lac Témiscouata. Ça, c'est non négligeable comme milieu de vie, je pense.
Est-ce que vous avez déjà un chiffre de vente ou c'est quelque chose que c'est mieux que qu'on vous contacte directement pour avoir ça?
Oui, j'aimerais mieux que les gens nous contactent directement. Il y a tellement de scénarios différents qui peuvent arriver dans une vente comme ça. Fait que s'il y a un réel intérêt, ben appelez-nous là, puis on va discuter en toute transparence encore, mais de un à un.
Il y a quelque chose, comme je dis, il y avait du monde qui m'a envoyé des courriels qui me disaient, voulait savoir c'était quoi. T'sais. À quoi on doit s'attendre quand on achète une malterie? C'est quoi le profil important à l'arrière de ça? Comme je dis, j'ai eu des coopératives qui m'ont contacté pour ça. J'ai du monde qui m'a dit, c'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'arrière de ça. Mais c'est quoi le profil de la personne qui s'en lance là-dedans? Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas beaucoup là-dedans à l'arrière de ça, mais si quelqu'un qui se lance là-dedans, ça, il doit s'attendre à quoi à l'arrière de tout ça?
Ça prend des gens qui sont très polyvalents. Puis ça, je pense que c'est vrai dans toute entreprise, mais très polyvalents et qui ont le goût d'apprendre parce que, il faut apprendre à malter. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, là. Il y a des trucs techniques qui s'apprennent, il y a une base, mais c'est l'apprentissage sur le terrain, là. Tu sais, nous autres, ça fait 15 ans, puis on apprend encore. Il n'y a jamais une année qui est pareille, il n'y a jamais une saison qui est pareille. On est tout le temps en train de se questionner, puis de se challenger, puis jaser la production ensemble pour voir, bon, pourquoi l'orge répond de cette façon-là cette fois-ci. Ça fait que c'est ça. Ça prend quelqu'un de polyvalent, ça prend quelqu'un qui a le goût d'apprendre, ça prend quelqu'un qui sait s'entourer aussi. Tu sais, c'est beau la production de malt, mais il y a aussi tout l'aspect gestion d'entreprise, service à la clientèle, la vente. Tu sais, c'est ça. Je résumerais ça comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là.
Non, oui, un petit peu, mais tu sais, parce que je veux avoir le profil de personne, c'est qu'il devrait être faire, c'est sûr que il faut que tu veuilles, parce que l'affaire, la beauté avec votre compagnie, c'est que vous êtes comme, il y a un goût pour le local, puis vous le faites, et bien la job, ça, l'affaire, ce que je dis à tout le monde, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose d'intéressant là-dessus. Est-ce que quelqu'un, le côté cash flow, c'est vraiment important d'avoir ça, un cash flow intéressant quand vous faites de la malterie à long terme, ou c'est, vous avez déjà des clients, tout ça, mais est-ce qu'il y a un besoin d'avoir un bon cash flow? Passer 2, 3 ans avec ce qui se passe.
Ben, c'est une bonne question. Tu sais, là, au niveau de dans 2, 3 ans, là, je ne répondrai pas à ça nécessairement, mais tu sais, quand on parle de cash flow, je dirais qu'un des défis qu'on a au niveau de la malterie, c'est les inventaires, là, qu'on garde quand même beaucoup d'inventaires pour pouvoir répondre à la clientèle qui, eux, vont commander à la dernière minute. Donc, ils aiment ça qu'on ait les produits. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir les produits en temps. Mais, tu sais, si on regarde dans une plus petite échelle, oui, ça prend une bonne gestion du cash flow pour ça, pour être capable de maintenir un certain inventaire puis répondre en just-in-time aux clients. On essaie de travailler beaucoup avec eux pour qu'on connaisse leur production en avance, mais tu sais, le marché change tellement que pour nos clients aussi, il y a juste la production en fonction des demandes. Ça fait qu'il y a ce boulot-là qui est un beau défi.
Est-ce que le côté technologique, il faut investir dans la technologie pour que ce soit plus vite, mieux? Est-ce qu'il y a une façon de travailler qu'on devrait investir là-dedans? Parce que c'est de plus en plus, le monde investit beaucoup dans la technologie, tu sais, seulement pour les tout ce qui est seulement pour être sûr d'avoir l'inventaire real time. Est-ce qu'il y a quelque chose à investir là-dedans aussi à long terme?
Bien, tu sais, nous autres, on avait plein d'idées d'amélioration pour notre malterie au niveau de l'automatisation, au niveau de la gestion des inventaires. Fait que, tu sais, oui, il y a beaucoup, tu sais, je veux dire, toute entreprise a toujours besoin de s'améliorer. Ça fait que ce soit chez nous ou ailleurs, je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Tu sais, nous, nos équipements, ils sont pas entièrement automatisés. De toute façon, ça prend quelqu'un qui vient prendre des échantillons quand le grain est en train de se transformer pour voir il est rendu comment et tout ça. Mais il y a certaines choses qui peuvent se gérer à distance et tout ça. Ça fait que, mais oui, tu sais, si je résume ça, oui, il peut avoir des investissements qui sont faits pour améliorer la.
Mais c'est partout, hein. C'est partout comme ça. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé longtemps à manuel, puis maintenant, c'est le moment d'investir là-dessus. Puis, by the way, le gouvernement donne des prêts, des argent pour automatiser des affaires, ça. N'ayez pas peur, c'est des investissements à long terme intéressants pour les clients. Cindy, il y a quelque chose, et vous voulez savoir le monde, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu t'en vas, je sais que toi, tu as une side business aussi, mais demain matin, tu t'en vas, est-ce qu'on prend des vacances, on regarde le fleuve, il faut l'amener une fois, puis on s'en va, je pense qu'il n'y a pas de soin des montagnes, qu'est-ce qu'on fait?
Non, tu sais, demain matin, j'ai fini, je prends pas de vacances. Effectivement, moi et Dani, on a chacun de notre côté une autre entreprise. Fait que les activités vont continuer de ce côté-là. Ça a été comme ça depuis toujours, là. Puis on a mené de front nos diverses activités. Fait que je te dirais que dans le fond, ça va peut-être juste nous aider à souffler un petit peu. Un petit peu, ce sont peut-être là les vacances. On va trouver qu'on a un petit peu plus de temps pour nous.
Avant de finir avec l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter dans notre conversation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devait savoir, des pensées? Si on va mettre toutes les adresses, des courriels de tout ce monde-là, à qui, comment contacter? Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais que tu peux tout vendre uniquement l'équipement, ça c'est écrit dans votre communiqué, mais quoi d'autre que vous voulez ajouter?
Ah ben, en fait, j'inviterais les gens qui sont intéressés puis qui veulent jaser plus à m'appeler tout simplement. Puis je pense que la meilleure chose, soit m'appeler moi pour tout ce qui est des conversations générales. Si c'est des conversations plus au niveau de l'équipement, c'est mieux de parler à Dani. Mais une chose à se rappeler, malbrou.com, c'est notre site web, nos coordonnées sont là. Je vais être aussi au congrès de la MDQ en novembre. Fait que si vous avez le goût de venir jaser en personne de tout ça, ben ça fait des années qu'on est là, puis Malbrou va être encore là cette année. Fait que c'est ça. Je suis très ouverte à la discussion. Puis sinon, en attendant, ben on continue à malter puis à bien servir nos clients. Et merci beaucoup, Leonardo. C'est vraiment une belle entrevue avec toi.
Merci beaucoup.